Chapitre 29. Germantown, lundi 29 décembre 1980. On opéra Saul Lasky le lundi après-midi. Il resta inconscient durant 20 minutes et vaseux durant une heure. Lorsqu'il fut assez lucide pour reconnaître l'endroit où il se trouvait, la même cellule où on l'avait enfermé le dimanche matin, il ôta son pansement et examina l'incision. On lui avait entaillé le gras de l'avant-bras gauche, 7 ou 8 centimètres au-dessus des chiffres à moitié effacés de son matricule de prisonnier. L'opération avait été exécutée avec compétence, les points de suture étaient parfaitement posés. Bien que la plaie fût encore enflée et douloureuse, Saul parvint à distinguer une bosse qu'il n'avait jamais vue sur son bras. On avait inséré sous le long supinateur un objet de la taille d'une grosse pièce de 25 cents. Saul remit le pansement en place et s'allongea pour réfléchir. Il avait eu tout le loisir de réfléchir. La veille, il avait été surpris de constater qu'on ne l'avait ni relâché ni utilisé dans un but quelconque. Il était sûr qu'on l'avait conduit à Philadelphie pour une bonne raison. L'hélicoptère avait atterri dans une partie isolée d'un immense aéroport, et Saul, les yeux bandés, avait été transféré dans une limousine. La rumeur de la rue, les nombreux arrêts et démarrages de la voiture, lui avaient appris qu'il traversait une partie animée de la ville. À un moment donné, il avait perçu le bourdonnement métallique d'un pont sous les roues. Ils avaient roulé sur un terrain accidenté avant de faire halte. S'il n'y avait pas eu la rumeur de la ville, une sirène dans le lointain, des cris, le grondement d'un train de banlieue prenant de la vitesse, Saul aurait pu se croire en pleine campagne. Il devait donc se trouver dans une zone dégagée, boueuse, bosselée, en plein cœur de la ville. Un terrain vague? Un chantier? Un parc? Il avait gravi 3 marches, puis on lui avait fait franchir une porte, prendre un couloir sur la droite, puis fait tourner encore à droite. Il s'était cogné au mur à 2 reprises, et la consistance de sa surface, ainsi que les échos dans la minuscule pièce où on l'avait enfermé, l'avait convaincu qu'il se trouvait dans une caravane ou dans un mobil-home. La cellule était moins solide et moins impressionnante que celle de Washington. Elle était pourvue d'une couchette, de toilettes chimiques et d'une petite grille de ventilation par laquelle lui parvenaient des bruits étouffés et des rires occasionnels. Saul aurait tué pour avoir un livre. Les capacités d'adaptation de l'organisme humain sont certes fabuleuses, mais Saul était incapable de se passer de lecture pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsqu'il vivait dans le ghetto de Lodz, son père avait pris l'initiative de dresser une liste des livres disponibles et d'organiser une sorte de bibliothèque de prêt. Les Juifs condamnés à partir dans les camps y emmenaient parfois les livres qu'ils avaient empruntés, et le père de Saul rayait alors les titres sur sa liste en soupirant. Mais le plus souvent, les hommes épuisés et les femmes aux yeux tristes les ramenaient religieusement, la page où ils avaient interrompu leur lecture encore marquée par un signet. « Vous le finirez à votre retour », disait le père de Saul, et le lecteur ou la lectrice hochait la tête. Colben vint l'interroger à 2 ou 3 reprises, mais Saul vit que le cœur n'y était pas. Tout comme Saul, Colben attendait quelque chose. Tous les occupants du complexe de caravane attendaient quelque chose, Saul le sentait. Mais quoi? Il profita des circonstances pour réfléchir. Il pensa à Lauberst, à Mélanie Fuller, à Colben, à Barent et à tous les autres qui lui restaient inconnus. Il avait travaillé durant des années sur la base d'une dangereuse erreur de perception. Il avait cru que s'il parvenait à comprendre la psychologie du mal, il pourrait le guérir. À présent, il se rendait compte que sa quête de Lauberst n'était pas seulement motivée par de vagues raisons personnelles, mais aussi par la même curiosité scientifique qui poussait un immunologiste du Centre de contrôle des maladies à traquer et à isoler un nouveau virus mortel. C'était intéressant, intellectuellement stimulant, trouver, comprendre, guérir. Mais il n'existait aucun antibiotique contre le bacille de cette peste. Saul connaissait les recherches et les théories de Lawrence Kohlberg depuis plusieurs années. Kohlberg avait consacré sa vie à l'étude du développement moral et éthique. Aux yeux d'un psychiatre formé aux théories de la psychothérapie d'après-guerre, les idées de Kohlberg paraissaient simplistes, voire infantiles. Mais, alors qu'il gisait dans sa cellule en écoutant le murmure de la ventilation, Saul se rendit compte à quel point la théorie du développement moral proposée par Kohlberg s'appliquait à sa situation. Kohlberg avait découvert 7 niveaux de développement moral, censés être indépendants de l'époque, du lieu et de la culture. Le niveau 1 est essentiellement celui de l'enfant, exempt de toute notion du bien et du mal, n'obéissant qu'à ses besoins et à ses désirs, uniquement inhibé par des stimuli négatifs. Plaisir et douleur servent de base au jugement éthique selon un schéma des plus classiques. Au niveau 2, l'être humain réagit à la notion de bien et de mal en se conformant aux décisions d'une autorité. Les adultes savent ce qu'ils font. Une personne du niveau 3 se soucie des règles en vigueur. Je n'ai fait que suivre les ordres. L'éthique du niveau 4 est dictée par la majorité. Une personne du niveau 5 consacre sa vie à créer et à défendre des lois qui servent le bien commun, tout en défendant les droits des personnes dont les opinions sont incompatibles avec le niveau 5. Les niveaux 5 font d'excellents avocats. Saul en avait connu quelques-uns à New York. Les niveaux 6 sont capables de transcender l'optique légaliste des niveaux 5 et se soucient du bien commun et des réalités éthiques supérieures, indépendamment des frontières nationales, culturelles ou sociologiques. Les niveaux 7 obéissent uniquement aux principes universels. Jésus-Christ, Bouddha et Gandhi figure parmi les rares niveaux 7 connus. Kohlberg n'était pas un idéologue. Saul l'avait rencontré à plusieurs reprises et avait pu apprécier son sens de l'humour. Et il aimait à souligner les paradoxes tout simples engendrés par sa hiérarchie du développement moral. Lors d'une soirée organisée au Hunter College, Kohlberg avait déclaré que l'Amérique était une nation de niveau 5, fondée par le plus incroyable assortiment de niveau 6 doué de sens pratique que l'histoire ait jamais connu, et principalement peuplée de niveau 3 et de niveau 4. Il soulignait le fait que, dans notre vie quotidienne, nous nous placions souvent en dessous de notre niveau optimum de développement moral, mais que nous ne pouvions jamais dépasser celui-ci. Il citait comme triste exemple l'inévitable destruction de l'enseignement de tous les niveaux 7. Jésus-Christ transmettant son savoir à un Paul de niveau 3, Bouddha représenté par des générations de prêtres incapables de dépasser le niveau 6 et rarement capables de l'atteindre. Mais Kohlberg ne plaisantait jamais de ses recherches les plus récentes. À sa grande stupéfaction, puis à sa grande terreur, il avait découvert l'existence d'un niveau 0. Il existait des êtres humains n'ayant jamais atteint le stade fœtal et absolument dénués de repères moraux. Même les stimuli plaisir-douleur étaient impuissants à gouverner de telles personnes, si on pouvait encore les qualifier de personnes. Un niveau 0 pouvait croiser quelqu'un dans la rue, le tuer par caprice et s'éloigner ensuite sans le moindre remords. Les niveaux 0 ne souhaitaient ni être capturés ni être punis, mais ce n'était pas le désir d'éviter la punition qui guidait leurs actes. Et ceux-ci n'étaient pas non plus motivés par un désir de transgression qui l'emportait sur la peur du châtiment. Les niveaux 0 étaient incapables de distinguer un acte criminel d'un acte ordinaire. Ils étaient atteints de cécité morale. Des centaines de chercheurs avaient mis les hypothèses de Kohlberg à l'épreuve, mais ses données semblaient solides, ses conclusions irréfutables. À n'importe quelle époque, dans n'importe quelle société, 1 à 2% de la population se trouvait au niveau 0 du développement moral. Ils vinrent chercher Saul le lundi après-midi. Colben et Haynes le maîtrisèrent pendant qu'un troisième homme lui faisait une piqûre. Il sombra dans l'inconscience au bout de 3 minutes. Lorsqu'il se réveilla un peu plus tard, souffrant d'une migraine et d'une douleur au bras, On lui avait implanté quelque chose dans la chair. Saul examina l'incision, haussa les épaules, roula sur lui-même et se mit à réfléchir. Ils le relâchèrent le mardi, à une heure qu'il ne put préciser. Haynes lui passa un bandeau sur les yeux pendant que Colben lui déclarait « Nous allons vous laisser partir. Vous ne devez pas vous éloigner de plus de 6 pâtés de maison de l'endroit où nous vous déposerons. Vous ne devez téléphoner à personne. Quelqu'un vous contactera plus tard pour vous dire ce qu'il convient de faire ensuite. Ne parlez à personne qui nous ait d'abord adressé la parole. Si vous désobéissez à l'un de ses ordres, il arrivera des ennuis à votre neveu Aaron, à Déborah et à leurs enfants. Est-ce que c'est bien compris ?»«
Oui. »
Ils le conduisirent vers la limousine. Le trajet dura moins de 5 minutes. Colben ôta le bandeau des yeux de Saul et le poussa par la portière ouverte. Saul resta immobile au bord du trottoir et cligna des yeux d'un air stupide dans la pénombre de l'après-midi. Il était déjà trop tard pour qu'il puisse déchiffrer le numéro minéralogique de la limousine qui s'éloignait. Saul recula d'un pas, heurta une femme noire portant un cabas, s'excusa et ne put s'empêcher de sourire. Il s'avança le long du trottoir étroit, enregistrant les moindres détails de ce qui l'entourait. La rue aux immeubles en briques, les magasins miteux, les nuages gris, un bout de papier qui va se plaquer sur un réverbère vert de grisé. Saul marchait d'un pas vif, ignorant la douleur qui lui taraudait le bras, traversant au feu vert, lançant un salut allègre à un conducteur de tramway furibond. Il était libre. Saul savait que c'était une illusion. Il était sûr que certains des passants qu'il croisait sur son chemin l'observaient, le suivaient. Parmi les véhicules qui roulaient sur la chaussée, certains transportaient sûrement des hommes aux costumes sombres et aux visages fermés qui murmuraient dans leur radio. La bosse de son bras gauche recelait probablement un transmetteur radio ou une bombe miniaturisée, ou les deux. Cela n'avait aucune importance. Comme Saul avait les poches vides, il se dirigea vers le premier homme qu'il vit, un immense noir vêtu d'un blouson rouge et limé, et lui mendia une pièce de 25 cents. Le noir considéra l'étrange apparition barbue, leva une main gigantesque comme pour la chasser, puis secoua la tête et tendit à Saul un billet de $5.
« Va te faire soigner, mon frère, » grommela le géant.
Saul entra dans un petit café, changea le billet contre des pièces de 25 cents et se dirigea vers une cabine publique pour appeler l'ambassade d'Israël à Washington. On ne put lui passer ni Aaron Eshkol, ni Levi Cole. Saul s'identifia. La standardiste n'eut aucune réaction perceptible, mais le ton de sa voix s'altéra lorsqu'elle dit
« Oui, docteur Lasky, si vous voulez bien patienter une minute, je suis sûr que M. Cohen aimerait vous parler.
Je vous appelle depuis une cabine publique de Philadelphie, en Pennsylvanie, » dit Saul.
Il lui indiqua le numéro de la cabine.
« Je suis à court de pièces. Pouvez-vous me rappeler ici afin que nous ne soyons pas coupés ?»«
Bien sûr, » dit la standardiste. Saul raccrocha. Le téléphone sonna. Il décrocha le combiné, entendit un bourdonnement, puis plus rien. Il se dirigea vers une autre cabine, tenta d'appeler l'ambassade en PCV, et entendit la tonalité disparaître. Il sortit du café et se mit à errer sans but précis. Maudit et sa famille étaient morts. Saul l'avait su au fond de son cœur, mais maintenant, il le savait. Il ne pouvait plus lui faire grand-chose. Saul s'immobilisa, regarda autour de lui, essaya de repérer les agents qu'il suivait. Il ne vit que peu d'hommes blancs à proximité, mais cela ne voulait rien dire. Le FBI avait des agents de race noire. Un noir plutôt bien de sa personne et vêtu d'un élégant manteau en poil de chameau traversa la rue et s'approcha de Saul. Il avait des traits bien dessinés, un large sourire et des lunettes à large verre réfléchissant. Il portait un attaché-case en cuir d'aspect coûteux. Il sourit comme s'il avait reconnu Saul, fit halte
et ôta son gant en peau de chamois avant de lui tendre la main droite. Saul la serra.
« Bienvenue, mon petit pion, » dit l'homme dans un polonais parfait. « Il est temps que vous vous joigniez à notre jeu. »«
Vous êtes l'Oberst. »
Saul sentit quelque chose frissonner au fond de lui. Il secoua la tête et cette étrange impression se dissipa en partie. Le noir sourit et lui répondit en allemand.
« Oberst, un titre honorable, un titre que je n'ai plus entendu depuis trop longtemps. »
Il s'arrêta devant un restaurant Horn and Hardart et en indiqua l'entrée d'un geste.
« Avez-vous faim ?
Vous avez tué Francis. »
L'homme se frotta la joue d'un air distrait.
« Francis, oh, j'ai bien peur de ne... Oh oui, le jeune détective. Eh bien... »
Il sourit et secoua la tête.
« Venez, je vous offre à déjeuner, même s'il est un peu tard pour cela. »
Ils nous observent, vous savez.
Bien sûr.
Et nous les observons.
Une activité qui n'a généralement rien de très productif.
Il ouvrit la porte pour laisser passer Saul.
Après vous, dit-il en anglais. Mon nom est Jensen Luard,
dit le noir alors qu'il prenait place dans le restaurant presque désert. Luard avait commandé un cheeseburger aux oignons et un lait malté à la vanille. Saul contemplait fixement sa tasse de café.
« Votre nom est Wilhelm von Borchert, » rectifia Saul. « S'il n'y a jamais eu un Jensen Luard, cela fait longtemps qu'il n'est plus de ce monde. »
Jensen Luard eut un geste agacé et ôta ses lunettes.
« Une question de sémantique à ce stade. Notre petit jeu vous plaît ?»«
Non. »
« Aaron Eshkol est-il mort ?»«
Votre neveu ?»
Oui, j'en ai peur.
La famille d'Aaron?
Également décédée.
Saul inspira profondément.
Comment? Pour autant que je le sache, M. Colben a dépêché Haynes et quelques-uns de ses collègues chez votre neveu. Il y a eu un incendie, mais je suis sûr que cette malheureuse famille avait déjà succombé avant que jaillisse la première flamme.
Haynes!
Jensen Luard aspira une gorgée de lait à l'aide de sa paille. Il mordit à pleines dents dans son cheeseburger, se tamponna délicatement les lèvres avec un coin de serviette et sourit.
« Vous jouez aux échecs, docteur ?»
Ce n'était pas une question. Luard offrit une rondelle d'oignon à Saul. Celui-ci le regarda sans rien dire. Luard avala son oignon et dit
« Si vous connaissez bien ce jeu, docteur, vous devez apprécier ce qui se passe en ce moment.
Ce n'est donc que ça, à vos yeux? Un jeu?
Bien sûr.
Considérer nos activités sous un autre jour serait prendre la vie, et nous-mêmes, beaucoup trop au sérieux.
Je vais vous retrouver et vous tuer, dit doucement Saul.
Jensen Luard hocha la tête et avala une nouvelle bouchée de cheeseburger.
Si nous devions nous rencontrer en personne, vous essayeriez sûrement. Vous n'avez plus le choix à présent.
Que voulez-vous dire?
Tout simplement que le président a estimé de ce qu'on appelle par euphémisme l'Island Club, un certain C. Arnold Barent vous a conditionné dans ce seul but. Tuer un producteur de cinéma que le monde entier croit déjà mort.
Saul sirota une gorgée de café froid pour dissimuler sa confusion.
Barent n'a rien fait de tel?
Bien sûr que si.
Il n'avait aucune autre raison de vous recevoir en personne. Combien de temps a duré votre entretien avec lui, à votre avis?
Quelques minutes?
Quelques heures, plus probablement. Monsieur Barent vous a conditionné pour deux raisons.
Pour me tuer
et pour s'assurer que vous ne représenterez jamais une menace pour lui.
Que voulez-vous dire?
Luard avala le dernier morceau d'oignon de son assiette.
Faisons une expérience. Visualisez M. Barent, et ensuite imaginez-vous en train de l'agresser.
Saul plissa le front, mais s'exécuta. Cela fut très difficile. Lorsqu'il se rappela Barent tel qu'il l'avait vu, bronzé, détendu, assis sur le pont de son navire et contemplant la mer,
il fut stupéfait de sentir monter en lui une sensation de plaisir, d'amitié et de loyauté. Il se força à s'imaginer en train de frapper Barent, de lever le poing sur ses traits amènes et bien dessinés. Saul se plia en deux sous l'effet d'une soudaine nausée. Il hoqueta, sur le point de vomir. Une sueur froide lui inonda le front et les joues. Il attrapa tant bien que mal un verre d'eau et en avala plusieurs gorgées, s'efforçant de penser à autre chose, défaisant lentement le nœud de douleur qui s'était formé dans son ventre.
« Intéressant, ya !» dit Luard.
« C'est la plus grande force de Monsieur Barent. Toute personne ayant passé quelque temps auprès de lui est incapable de lui vouloir le moindre mal. Servir Monsieur Barent est une source de plaisir pour nombre de gens. »
Saul acheva de vider son verre et s'épongea le front avec une serviette de table.
« Pourquoi l'affrontez-vous ? »
« L'affronter ? Non, 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 mon cher pion. Je ne l'affronte pas. Je joue contre lui. »
Luard regarda autour de lui.
« Pour le moment, ils n'ont encore installé aucun microphone pour capter notre conversation. » Mais dans quelques minutes, une fourgonnette va se garer près d'ici et nous ne pourrons plus parler en privé. Il est temps pour nous d'aller faire un tour.
Et si je ne veux pas vous suivre ?
Jensen Luard haussa les épaules.
Dans quelques heures, la partie va devenir vraiment très intéressante. Vous avez un rôle à y jouer. Si vous souhaitez vous venger de ceux qui ont éliminé votre neveu et sa famille, il est dans votre intérêt de m'accompagner. Et grâce à moi, vous serez libéré. Du moins, libéré d'eux.
Mais pas de vous.
Ni de vous-même, cher pion.
Allez, allez, il est temps de se décider.
Un jour, je vous tuerai, dit Saul.
Luard sourit, remit ses lunettes et enfila ses gants.
Ya, ya, vous venez.
Saul se leva et regarda par la fenêtre. Une fourgonnette verte venait de se ranger au bord du trottoir. Saul suivit Luard à l'extérieur. Les rues de Germantown étaient aussi étroites que contradictoires. Jadis, les immenses bâtiments avaient peut-être été des demeures agréables. Certains d'entre eux rappelaient à Saul les maisons étroites d'Amsterdam. Ce n'étaient aujourd'hui que des taudis surpeuplés. Les petites boutiques avaient peut-être été le noyau d'une authentique vie communautaire. Magasins d'alimentation, épiceries fines, magasins de chaussures, autant de boutiques familiales. Aujourd'hui, leurs vitrines exhibaient surtout des cadavres de mouches. Certaines d'entre elles avaient été converties en appartements bon marché. Debout dans une vitrine, une fillette crasseuse pressait sa joue et ses doigts sales contre le verre.
« Que voulez-vous dire quand vous m'avez annoncé que vous jouiez contre Barent ?» demanda Saul.
Il regarda par-dessus son épaule, mais ne vit aucun signe de la fourgonnette verte. Aucune importance. Il savait qu'on n'avait pas cessé de les surveiller. C'était l'Oberst qu'il voulait retrouver.
Nous jouons aux échecs.
Le colosse noir se tourna vers lui, et Saul vit son propre reflet dans les verres de ses lunettes.
« Et nos vies forment l'enjeu de la partie, » dit Saul.
Il chercha désespérément un moyen de pousser l'Oberst à lui révéler l'endroit où il se trouvait. Luard éclata de rire, révélant ses larges dents blanches.
« Non, non, mon petit pion, »
dit-il en allemand.
« Vos vies n'ont aucune valeur. L'enjeu n'est rien moins que la maîtrise des règles du jeu. »
« Le jeu ?» Il venait d'entrer dans une rue latérale. Ils n'y virent personne en dehors de deux matrones noires qui sortaient d'une laverie automatique.
« Vous connaissez sûrement l'Island Club et les jeux qu'il organise tous les ans, » dit l'Oberst. « Herr Barent et sa coterie de couards ont toujours eu peur de me laisser y jouer. Ils savent que j'exigerai du jeu qu'ils prennent une nouvelle envergure, une envergure digne d'une race d'Ubermenschen. »
« La guerre ne vous a donc pas suffi. »
Luard eut un nouveau sourire.
« Vous cherchez à me provoquer, » dit-il doucement.
« Une entreprise parfaitement vaine. » Ils firent halte devant un bâtiment en parpaing attenant à la laverie.
« La réponse est non. La guerre ne m'a pas suffi. L'Island Club s'imagine avoir des prétentions à la puissance tout simplement parce que ses membres exercent une influence sur les gouvernants, sur les nations, sur l'économie. Une influence. »
Luard cracha sur le trottoir.
« Quand j'aurai édicté les nouvelles règles du jeu, ils verront ce dont est capable la vraie puissance. Le monde n'est qu'un morceau de viande pourrie infesté de vers, petit pion. Nous le purifierons par le feu. Je leur montrerai ce que c'est que de jouer avec des armées plutôt qu'avec leur pitoyable petit factotum. Je leur montrerai ce que c'est que de voir des villes entières périr suite à la perte d'une pièce. Des races entières se faire capturer et utiliser suivant les caprices de l'utilisateur. Et je leur montrerai ce que c'est que de jouer le jeu à l'échelle du globe. Nous sommes tous mortels, petit pion. Mais Herb Arendt est incapable de comprendre qu'il n'y a aucune raison pour que le monde nous survive. »
Immobile sur le trottoir, Saul le regardait fixement. La bise agitait les pans de son manteau et lui donnait la chair de poule.
« Nous y voilà !»
Luard sortit de sa poche un trousseau de clés, grâce auquel il ouvrit la porte du bâtiment miteux. Il s'enfonça dans l'obscurité et fit signe à Saul.
« Tu viens, petit pion ?»
Saul déglutit.
« Vous êtes encore plus fou que je ne l'imaginais » murmura-t-il.
Luard acquiesça.
« Peut-être. Mais si vous me suivez, vous aurez une chance de pouvoir continuer la partie. Pas le grand jeu, malheureusement. Vous n'avez aucun rôle à y jouer, mais votre sacrifice en permettra le déroulement. Si vous venez avec moi, de votre propre volonté, nous vous ôterons les chaînes que vous ont passées Herb Arendt, afin que vous puissiez continuer à me servir en pion loyal. »
Debout dans le froid, Saul serra le poing et sentit la douleur lui tarauder le bras gauche autour de l'implant chirurgical. Il s'enfonça dans les ténèbres. Luard sourit et verrouilla la porte derrière eux. Saul cligna des yeux dans la pénombre. Le rez-de-chaussée, une espèce de vaste entrepôt, ne contenait que de la sciure et des palettes de manutention. Un escalier en bois conduisait à l'étage. Luard le désigna du doigt. Et Saul commença à monter.
« Bon Dieu !» dit-il.
La faible lumière qui filtrait à travers la verrière crasseuse permettait de distinguer une table et quatre chaises. Deux de ces chaises étaient occupées par des cadavres nus. Saul s'approcha d'eux pour les examiner. Ils étaient froids, pris dans l'étau de la rigidité cadavérique. Le premier était celui d'un noir, de la même taille et de la même corpulence que Luard. Ses yeux étaient grands ouverts et voilés par la mort. Le second corps était celui d'un homme blanc un peu plus âgé que Saul, chauve et barbu. Sa bouche était béante. Saul vit sur son nez et sur ses joues une coupe rose trahissant un alcoolisme avancé. Il regarda Luard ôter son manteau en poil de chameau.
« Nos doppelgangers !» dit Saul.
« Exactement !» fit Lobers par la bouche de Luard.
« J'ai déjà quasiment chassé de votre esprit les pulsions que Herb Arendt y avait instillées. Êtes-vous prêt à continuer, petit pion ?»«
Oui. »«
À continuer à chercher un moyen de vous tuer, » pensa-t-il.
« Très bien. » Luard consulta sa montre.
« Nous avons environ une demi-heure avant que M. Colben ne décide de se joindre à nous. Cela devrait suffire. »
Il posa son attaché-case sur la table, près du bras gauche du cadavre noir. Lorsqu'il l'ouvrit, Saul vit qu'il était plein du même type d'explosif qu'il avait vu sur Harrington.
« Nous suffire pour quoi faire ?» dit Saul.
« Nos préparatifs. Ce bâtiment est pourvu d'un sous-sol secret relié à la cave de l'immeuble voisin. Cette cave nous permettra d'accéder à une partie de l'ancien réseau d'égouts de la ville. » La sortie n'est qu'à un pâté de maison de distance, mais cette zone ne devrait pas être surveillée. Une voiture m'attendra là-bas. Vous serez libre d'aller où vous voudrez.
Vous êtes si malin que ça me donne envie de vomir.
Ça ne marchera jamais.
Ah bon ?
Luard haussa ses épais sourcils. Saul ôta son manteau et retroussa sa manche. Les bandages étaient légèrement jaunis par l'onguent qu'on lui avait appliqué.
« On m'a implanté quelque chose hier. Je pense qu'il s'agit d'un transmetteur radio. »«
Évidemment. »
Luard prit dans son attaché-caisse un paquet enveloppé de tissu vert et déroula celui-ci. Une bouteille d'iode et des instruments chirurgicaux étincelèrent dans la faible lumière.
« L'opération ne devrait pas prendre plus de 20 minutes, n'est-ce pas ?»
Saul prit un scalpel enveloppé dans un sachet stérilisé.
« Et c'est vous qui allez officier, je suppose ?»«
Si vous insistez. Mais je me dois de vous préciser que je n'ai reçu aucune formation médicale. »«
C'est donc moi qui aurai le plaisir d'opérer. »
Saul jeta un coup d'œil dans l'attaché-case puis releva la tête.
« Pas de seringue ? Pas d'anesthésie locale ?»
La pièce se reflétait dans les lunettes de Jensen Luard. Son visage massif était totalement inexpressif.
« Malheureusement, non. Quelle valeur accordez-vous à votre liberté, docteur Lasky ?»«
Vous êtes un démon, Herr Oberst, » dit Saul.
Il s'assit près de la table, disposa les instruments autour de lui et rapprocha la bouteille d'iode. Luard prit un sac de sport dissimulé sous la table.
« Changeons d'abord de vêtements, au cas où vous ne seriez pas en état de le faire tout à l'heure. »
Lorsque les cadavres furent revêtus de leurs habits et que Saul eut enfilé un jean légèrement flottant, un pull à col roulé noir et des chaussures de marche trop petites d'une demi-pointure, Luard déclara
« Plus que 18 minutes environ, docteur. »
« Asseyez-vous. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire au cas où je m'évanouirai. » Il sortit de la gaze et des pansements d'un sachet.
« C'est vous qui devrez recoudre la plaie. »«
Comme vous voulez, docteur. »
Saul secoua la tête, leva les yeux vers la verrière pendant quelques instants, puis baissa la tête et, d'un geste sûr, procéda à la première incision. Saul ne s'évanouit pas, mais il hurla à deux reprises, et lorsque les filaments du transmetteur eurent été séparés des fibres musculaires, il se pencha et vomit. Luard recousit grossièrement la plaie, la pansa, l'enveloppa de bandage et força le psychiatre à demi inconscient à enfiler un lourd manteau.
« Nous avons 5 minutes de retard sur l'horaire prévu, » siffla le noir. « Dépêchez-vous. »
Une trappe dissimulée sous des palettes s'ouvrait dans un coin de l'entrepôt, dont le sol semblait pourtant ne former qu'une surface uniforme de béton. Alors que Luard la refermait, Saul entendit le rugissement d'un hélicoptère et un lointain martèlement.
« Vite !»
siffla le colosse dans les ténèbres. Saul essaya de ramper, poussa un cri comme son bras douloureux se rappelait à lui et tomba en avant. Au-dessus d'eux, une gigantesque explosion fit trembler la terre et projeta sur le visage de Saul de la poussière et des toiles d'araignée.
« Vite !»
siffla Luard, et il poussa Saul devant lui. Des blocs de ciment s'étaient détachés des parois. Luard les écarta à coups de pied, aida Saul à se relever dans une cave obscure qui sentait la moisissure et le vieux papier journal, le força à avancer. Ils se faufilèrent entre une grille et un tas de briques, puis se remirent à ramper. Saul frissonnant au contact de l'eau glacée sur ses mains et ses genoux, touchant des choses visqueuses dans le noir. Il essaya de plaquer son bras gauche contre son flanc, et de progresser sur 3 membres. Il glissa à 2 reprises et se cogna l'épaule gauche, trempant sa veste. Luard éclata de rire et le poussa en avant. Saul ferma les yeux et pensa à Sobibor, aux masses hurlantes, au calme de la forêt des hiboux. Finalement, ils purent se redresser. Luard ouvrit la marche pendant 100 pas, tourna à droite pour s'engager dans un passage plus étroit et fit halte sous une grille. Ses bras robustes peinèrent pour soulever la clé métallique. Saul cligna des yeux dans la lumière grisâtre, se concentra pour chasser le vertige qui le gagnait et glissa une main dans la poche de son manteau
pour toucher la poignée froide du scalpel dont il s'était emparé pendant que Luard procédait aux ultimes réglages de la bombe à retardement contenue dans son attaché case.
« Ah ! Et voilà !»
halta Luard en poussant la grille de côté. Ses deux bras étaient toujours levés. La veste du colosse était ouverte, exposant son ventre et son torse sous le fin tissu de sa chemise. Saul rassembla ses forces et bondit, le scalpel à la main, imaginant pour sa lame une cible située quelque part derrière la colonne vertébrale du noir. Le bras gauche de Jensen Luard s'abaissa, vif comme l'éclair. Sa main massive se referma sur le poignet de Saul, et la lame s'immobilisa à 10 centimètres de son sternum.
Tss, fit Luard.
Son autre main alla frapper le bras gauche de Saul, toujours en sang. Le souffle coupé, Saul hoqueta et tomba à genoux tandis que des cercles rouges envahissaient son champ de vision de plus en plus étroit. Luard ôta doucement le scalpel de sa main droite privée de force.
« Ce n'est pas gentil, mein kleiner Jude, » murmura-t-il. « Auf Wiedersehen. »
La lumière fut occultée pendant une seconde, puis Luard disparut. Saul, agenouillé dans les ténèbres, trempa son front dans l'eau glacée pendant plusieurs minutes, s'efforçant de rester conscient.
« Pourquoi ? » pensa-t-il. « Pourquoi rester éveillé ? Dors donc un peu. » « Silence ! » s'ordonna-t-il.
Au bout d'une éternité, il se releva, tendit son bras valide vers la grille et tenta de se hisser à l'extérieur. Il lui fallut 5 tentatives pour y parvenir. Son jean était trempé par ses chutes successives, mais il finit par émerger dans la lumière du jour. La bouche d'égout était située derrière une benne à ordures métalliques, à 3 ou 4 mètres de l'entrée d'une ruelle. Il ne reconnut pas la rue dans laquelle il s'engagea d'un pas mal assuré. Des enfilades de maisons identiques s'étiraient jusqu'au sommet d'une colline. Saul parcourut un demi-pâté de maisons avant d'être gagné par un étourdissement. Il fit halte et examina son bras gauche. La plaie s'était ouverte. Le sang inondait la manche de sa veste, coulait le long de son bras et tachait le pan gauche de son manteau. Il se retourna et éclata de rire en découvrant la piste écarlate qu'il laissait derrière lui. Il serra violemment son bras et heurta la vitrine d'un magasin désaffecté. Le trottoir roulait et tanguait comme le pont d'un navire en pleine tempête. Le soir tombait. Des flocons dansaient comme des lucioles autour d'un lointain réverbère. Une silhouette massive descendait la rue en direction de Saul. Il recula en trébuchant jusqu'au pas de porte du magasin, glissa le long du mur rugueux, se tassa sur lui-même et essaya de se rendre aussi invisible qu'un poivreau habitué à de tels abris. Alors que l'homme passait lentement devant lui, Saul sentit une nouvelle douleur déchirer les muscles de son bras gauche. Il le serra encore plus fort et grinça des dents jusqu'à produire un bruit perceptible. L'homme passa sans s'arrêter, tenant dans sa main un lourd objet métallique. Saul sentit les ténèbres l'emporter, au moment même où les bruits de pas s'interrompaient quelques mètres plus loin, pour revenir ensuite lentement vers lui. Saul roula vers la gauche, sentant à peine son crâne heurter la porte. Son bras gauche était en feu, et il sentait le sang dégouliner sur son poignet et sa main. Le rayon d'une lampe torche lui poignarda les yeux. L'énorme silhouette se pencha sur lui, occultant la rue, occultant le monde. Saul serra son poing droit et lutta pour ne pas sombrer dans le tourbillon de l'inconscience. Une main lourde se posa sur son épaule.
« D'où Jésus ?»
dit une voix traînante qui lui était familière.
« Saul, c'est vous ?»
Saul hocha la tête et la sentit tomber en avant, sentit son menton se poser sur sa poitrine, ses yeux se fermer, pendant que la voix douce continuait de dire des choses qu'il ne pouvait comprendre, et que les bras robustes du shérif Bobby Joe Gentry le soulevaient et le portaient aussi facilement qu'un enfant endormi.